après-midi pour cette émission Bulle de Jazz. Bonne réécoute le lundi matin à 9h30. Aujourd'hui, on va avoir une bulle de jazz spéciale. Je me suis déplacée à Briançon pour le Jazz Altitude Festival et aussi j'ai réalisé un interview dans le théâtre briançonnais pour rencontrer les partenaires de l'Altitude Jazz Festival. Franck-Éric Rétenier, TDB, Théâtre de Briançonnais, avec Raphaël Humbert, compositeur associé au TDB. Raphaël Humbert, Jazz Création, si proche de Horizon, création et direction artistique, compositeur associé au TDB avec son projet Créolons-y le monde. Avec sa jazz création si proche de Horizon. Également, à cette table ronde, il y avait Jean-Bernard Blandine de l'association de Décablés et qui organise le Altitude Jazz Festival, le LAGF. On est ici dans le théâtre de Briançon.
Du Briançonnais, hein. TDB.
Le partenaire de longue date du TDB avec les Décablés propose cette année une pause musicale au cœur de l'hiver. Jazz Altitude Festival, la 13e. Voilà, ça commence le 19 janvier jusqu'au 2 février. Ils ont choisi Raphaël Humbert comme artiste associé au dernier festival de Jazz Altitude et maintenant il est créateur musical associé au TDB.
Théâtre du Briançonnais, oui, parce que ça recouvre les cinq vallées, donc c'est important ce qualificatif qui correspond bien aux objectifs aussi d'Attitude Jazz Festival. Et aussi, l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que le Théâtre du Briançonnais en 2019 devient scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. Et donc le projet, bien sûr, de compositeur associé, il trouve pleinement sa place.
Merci Franck. Voilà. Alors, la création jazz si proche de Horizon, Raphaël Humbert, il a fait une création et j'aimerais bien comment tu as trouvé cet thème qui est très proche ici dans le cœur de Haute-Provence et il y a des choses historiques qui sont passées là-bas.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai d'abord dire un mot du fait d'être compositeur associé. C'est un dispositif qui est financé et soutenu par le ministère de la Culture et la SACEM et donc qui met en place la présence d'un compositeur. Ça peut être un compositeur de musique contemporaine, de jazz, de musique actuelle. Ça devient de plus en plus large, d'ailleurs, de plus en plus diversifié, c'est tant mieux, au sein d'un lieu pluridisciplinaire. Ça ne doit pas être un lieu de musique. Et en fait, quand j'ai entendu parler de ce dispositif, très rapidement, par mes amitiés, mes acquaintances avec le festival, avec l'Altitude Jazz Festival, et avec la connaissance que j'avais de plus en plus du Théâtre du Briançonnais, de ce qui s'y passait, du travail de Franck-Éric, c'était assez évident qu'on allait présenter ce projet ensemble. Aussi par rapport à une région, à un pays qui, moi, m'intéresse de plus en plus. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai quand même passé 10 ans de ma vie en Haute-Provence, à Horizon, justement, on va en parler, et Fort-Calquier, que j'y ai encore beaucoup d'attaches et beaucoup d'amitié, mais c'est vrai que là, c'est une découverte qui, pour moi, Marseillais, que soit plutôt Provence, Haute-Provence, Briançon, c'était loin, quoi. C'était le bout de, c'était le bout de la carte, quoi, en quelque sorte. Et en fait, d'abord, j'ai été invité par le Passeport Quartet, Stéphane Massé, J.B. Houry, tous ces musiciens remarquables qui travaillent ici. J'ai découvert non seulement des musiciens, des artistes, des associations, un public, vraiment un secteur culturel et un pays qui est passionnant. Et j'y suis de plus en plus attaché. Et là, maintenant, je dois dire, si jamais le Briançonnais ne veut plus de moi, c'est tant pis, parce que je suis encore là pendant 2 ans et que j'ai pas mal de projets qui s'annoncent, dont la première création. Alors, on a fait quand même une avant-première qui était très rigolote. C'était un bal pour ouvrir le bal de ce compositeur associé. C'était le bal le 16 novembre dernier. On a fait un vrai bal populaire, swing, pop, dans le foyer du théâtre, qui était une salle de bal, donc on renoue aussi avec tout cet aspect historique. C'était absolument génial. Je peux dire aux auditeurs de Radio Zinzine qui me connaissent un petit peu que j'ai même chanté du Michel Delpech. Donc en fait, je réalise des rêves, moi, grâce à ce dispositif. Et l'autre rêve, c'est en fait d'avoir, moi, ça fait longtemps, vous me connaissez un petit peu, j'ai pas mal d'idées, je veux dire, voilà. Donc il y en a certaines qui se réalisent, d'autres qui ne se réalisent pas. Et ça fait très longtemps que je porte une idée au-delà de compositeur. C'est justement pour ça que ça a fait tilt, puisque maintenant je suis compositeur associé. Voilà, je suis jazzman, improvisateur, musicologue aussi, ethnologue de la musique, ça c'est une chose, mais je compose aussi. Et ça fait très longtemps, depuis que je me suis installé à Oraison, en fait, j'ai constaté ce truc sur les noms de rues. Les noms de rues d'une ville comme Oraison, c'est la seule ville de France qui a décidé de donner les noms de ces rues aux morts pour la France. C'est en 1921. En 21, il y a eu une sorte de grande réflexion nationale sur comment on garde la mémoire de tous les morts qu'il y a eu en France. Mais j'imagine que c'est une réflexion qui concernait l'Europe entière. Mais en France, ça s'est traduit par les monuments aux morts. Et la seule ville qui décide de faire autrement, alors elle a un monument aux morts malgré tout, c'est Oraison qui décide de... En fait, vous vivez dans un monument aux morts. Et quand je suis arrivé à Oraison, j'habitais impasse Damien Comte. Qui c'est Damien Comte? Ben, c'est un jeune gars qui est mort dans je ne sais plus quel champ de bataille à 19 ans, à un âge où normalement on n'a pas le droit de mourir devant ces raisons-là. Et en fait, moi, ça m'a toujours passionné, parce qu'en plus j'habitais dans un village qui s'appelle Oraison. Vous connaissez mes accointances avec l'idée du spirituel dans la musique. Oraison, c'est la prière. Et je viens d'apprendre, alors ça je le dirai demain, parce que c'est une troisième raison qui est... Alors, visiblement, le mot oraison vient du provençal, l'ourais sonne, c'est-à-dire le vent sonne. C'est un endroit de vent où le vent sonne. Alors pour un saxophoniste qui s'intéresse au spirituel et qui s'intéresse à l'histoire, il y avait visiblement quelque chose à faire là-dessus. Mais en fait, ce projet, alors on en avait fait une petite virgule dans le cadre des Sirènes de Midinette à Marseille, devant l'Opéra. On avait fait 12 minutes de musique avec ça, avec le Quatuor Manfred et tout. Mais ça fait longtemps que je voulais faire un projet entier là-dessus, qui n'est pas un projet... Les projets que j'ai fait précédemment, il y a beaucoup de voix, beaucoup de paroles et tout ça. Non, là, j'ai vraiment envie de quelque chose purement musical, purement poétique. C'est pas un truc sur la mémoire de la guerre, hein. C'est un truc sur comment on vit avec cette mémoire-là maintenant. D'autant que vous le savez, hein, vous connaissez un peu Oraison, les habitants d'Oraison, ils continuent à râler des noms de rue parce que on se souvient pas de quelqu'un qui est mort en 19, qui est un illustre inconnu. On préférerait, les gens continuent d'ailleurs, souvent, j'ai remarqué, les gens d'un certain âge, mais pas que, ils continuent à dire la rue de la pharmacie, qui était là d'ailleurs les appellations des rues avant 19. 1521. Il n'y avait pas de nom de rue à Oraison avant. Et alors ce rapport à la mémoire, à l'histoire et à l'actualité, parce qu'on vient de vivre le centenaire de la Grande Guerre, mais là c'est intéressant, justement, on est après. On parle aussi du centenaire de la mémoire et de ce qu'on a fait avec ça. En fait, c'est le jazz, c'est une musique parfaite pour ça. C'est une musique de mémoire et de création. Justement, je suis compositeur associé, mais je continue à être improvisateur. Et en fait, pour le premier acte de compositeur, j'ai proposé un quartet, en fait, un quartet de jazz. J'allais dire même un quartet classique. Piano, basse, batterie, saxophone. C'est le format presque Coltrane, qu'on retrouve aussi chez Coleman Hawkins, vraiment dans l'histoire du saxophone. C'est le quartet classique, comme le quatuor à cordes et le format classique de la musique de chambre. Le quartet, ce format-là, avec Vincent Lafont au piano, avec Pierre Finichel à la contrebasse, avec Mourad Benhamou à la batterie. Et je tiens à dire que tous ces musiciens, c'est des musiciens avec qui je joue depuis une vingtaine d'années. Donc on n'a jamais joué ensemble, sauf l'année dernière, on a joué Love Supreme de Coltrane, et ça a été un peu une révélation. Mais j'avais envie de renouer avec mon propre passé, en quelque sorte, pour faire quelque chose d'actuel. Donc voilà un peu l'idée. Je vais réaliser beaucoup de rêves, en fait, grâce à ce dispositif. Mon premier, c'était de chanter Michel Delpech, donc en novembre dernier. Et là, le second, c'est d'enfin finaliser une suite, ça va être vraiment que des compositions autour de cette idée de mémoire, voilà. Et donc ce sera samedi, et je tiens à dire aux auditeurs, ce sera quelque chose de en même temps très poétique, mais ce sera quand même festif, hein. Il s'agit pas, ça peut paraître un peu funèbre comme ça d'en parler comme ça, mais c'est pas du tout le propos. Ça peut être aussi, c'est la vie, c'est l'actualité, c'est comment on vit avec ça, c'est comment on crée des rencontres, comment on vit avec nos propres problèmes de maintenant, et comment on en fait, comment on fait sens avec ça. Donc je pense que ça va être un très beau moment. J'allais dire presque de... C'est un public qui est... Je trouve pas d'autre mot de dire désinhibé, mais c'est un peu péjoratif, mais personne se pose la question de la... Mon Dieu, comment je vais être perçu si je danse, comment, machin, je vais chanter... Oh, non, ils viennent. Aussi, c'est un public, moi j'adore... Vous savez, il y a un flocon de neige à Marseille, vous avez plus un seul concert qui marche pendant 15 jours... Et ici, moi, j'ai vu des situations où je me dis, il n'y aura jamais personne, et non, les gens viennent en motoneige, en raquette, mais en ski, en traîneau, mais ils sont là. J'ai souvenir quand même, les premières fois que je suis venu jouer au festival et dans le théâtre, c'était assez impressionnant pour moi, parce que moi, carrément, j'osais même pas passer l'argentière, on venait me chercher, moi, j'osais même pas rouler. Je suis un vrai Marseillais de ce côté-là. Hein. Oh non, les gens ici, ça leur fait pas peur, et ils viennent, voilà. Enfin, à Marseille, vous avez 3 km/h de Mistral, une goutte de pluie, alors la neige, j'en parle même pas. Non, là, ici, c'est un public investi, passionné, passionnant. On a quand même fait hier, je le dis, et je remercie JB qui est à côté de moi, parce que c'est grâce à lui qu'on a fait. On a fait une conférence sur l'improvisation pour les entrepreneurs du Briançonnais, et c'était génial, quoi. C'était génial. Il y avait une écoute, il y avait un répondant. Moi, je fais pas mal ce genre de trucs, mais c'était à part pour moi, et je pense qu'ici on est là pour vivre des choses différentes. C'est un îlot à part, et c'est pas un îlot isolé, hein. Le monde entier se croise ici pour des raisons, parfois avec tous les problèmes que l'on sait. Je rencontrais plein de gens qui prennent à bras le corps ces problèmes là et ici, avec le festival et le théâtre, il y a aussi quand même cette notion de qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà. La semaine dernière, on répétait, et il y avait des classes qui venaient de l'école à côté. Il y avait les migrants qui attendaient pour le commissariat à côté. Bon, ils venaient écouter, on échangeait. C'est quand même quel lieu, quoi. Quel endroit. Je vois, c'est génial. Voilà.
Encore une fois, merci Raphaël. Je te laisse échapper de cette ronde. Et puis, on va continuer à discuter avec les Franck, Eric, Jeanne Lenoir. Voilà, j'aimerais bien savoir un peu sur le partenariat qu'est la TDB et les Décablés, ils sont depuis...
Oui, en fait, pour nous, le partenariat, il a 8 ans, puisque le TDB existe depuis 8 ans. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais revenir un peu sur la philosophie des choses aussi, pas que... Je crois qu'un acteur culturel, c'est pas que quelqu'un qui... En tous les cas, j'essaie de maintenir ce cap dans le Briançonnais qui fait de la logistique ou qui coordonne. Il y a une pensée derrière tout cela. Et donc, effectivement, moi, depuis plusieurs années, la question que je me pose, parce que nous sommes originellement scène conventionnée pour les écritures d'ici et d'ailleurs, les saisons qui viennent de se développer ont traité d'ici et d'ailleurs. C'était la première saison, la seconde, l'autre, l'étranger. Et nous ne savions pas encore qu'il y aurait des migrants qui passeraient ici. Puis après, invisible, visible, naissance, renaissance, un pas de côté. En fait, je trouve que dans le débat actuel, dans le débat national, il manque un mot, le mot culture. Ce qu'il y a de positif dans la culture, c'est que nous posons des questions. Et souvent, l'artiste, je pense aux poètes aussi, parce que moi j'aime beaucoup les poètes, est en avance sur le monde. Il a une vision, en fait, du monde. Et effectivement, par exemple, cette saison, la saison du Théâtre du Briançonnais, c'est « Il faut toute une vie pour s'inventer ». Incroyable, parce qu'on est exactement à cet endroit-là. Et moi, c'est vrai que dans l'édito, j'ai posé des questions, j'ai dit « N'est-il pas urgent de mettre des mots sur l'état du monde, sur la folie ordinaire, sur nos obsessions? N'est-il pas urgent de convoquer l'humour, la légèreté, la beauté? N'est-il pas urgent d'écouter l'art et les artistes ?» Et lorsque nous nous sommes rencontrés, grâce à l'interaction d'AJF, et je tiens à les remercier, et donc à l'écoute, parce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'écouter les bruissements du monde, ce qu'il y a autour. Et effectivement, avec Raphaël Imbert, pour élaborer le projet Créolisons le Monde, nous nous sommes posé des questions. Il faut revenir à ces questions. Quelles sont ces questions? Comment aborder l'immigration autrement? Comment faire de la migration un atout pour un territoire? Comment valoriser par l'art le nomade qui apporte tant aux sédentaires et dont les destins sont liés? Comment le changer le regard de l'un sur l'autre? La période que nous traversons, elle est fantastique quelque part, parce que en fait, il faut pas voir que les choses par le prisme de l'hexagone dans lequel nous sommes, qui est une construction intellectuelle. Il me semble qu'il faut les voir par rapport à la planète. C'est 7 milliards d'habitants qui, d'un coup d'un seul, se retrouvent tous ensemble via Internet. Et donc, moi, quand j'étais enfant, je me souviens, je me disais, comment tu perçois le monde en 2000? Je dis, ben, il y aura un gouvernement mondial avec des gens qui s'aimeront, qui s'entendront, etc. C'était ma perception quand j'étais enfant. Et qu'on construirait tous ensemble, puisque, effectivement, nous serions arrivés à un tel niveau de développement que nous pourrions le faire. Et je crois qu'on est à cet endroit-là. Alors, effectivement, les migrations, elles sont géographiques, elles sont politiques, elles sont économiques. Et ça touche...
Tu avais dit écologique aussi.
Écologique, bien évidemment. Parce que
les montées des eaux et tout.
Et effectivement, et tu as raison de le dire, toi qui viens de si beau pays qui a tant à nous apprendre, l'Allemagne en l'occurrence, qui a depuis des années... les Verts en Allemagne, ces années 70, posent la question de l'écologie, et puis aussi, pour la première fois, sans faire pontifiant, de l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire de l'homme qui interagit sur la nature et qui est en train de dérégler le mécanisme total. Donc ça, c'est la vraie question, et elle est complexe, cette question, parce que effectivement elle nous touche au quotidien, elle bouleverse nos habitudes, et effectivement elle passe par le prisme aussi du modèle économique. Raphaël Imbert, pour revenir à lui, c'est plus qu'un saxophoniste. Je pensais à ça en l'écoutant là tout de suite. C'est un philosophe, c'est un penseur, et l'intérêt aussi de la culture, c'est qu'on touche l'universel.
Thank you.
je sais, Altitude Jazz Festival, il travaille sur la base associative, avec des partenaires aussi pour faire les repas, qui les produits viennent ici de la région, et c'est aussi beaucoup de solidarité fait par les bénévoles, et voilà, et c'est parti par ces petits collectifs de décablés qui sont créés. Cet festival, et je sais le public ici, en tout cas, il est très fidèle, les gens, ils vont faire la fête, ils peuvent aussi être silencieux pour écouter la musique très intense et spirituelle. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont quand même éveillés dans la musique, ben, la musique globale, parce que le jazz, il touche à tout. Et j'y vais des fois dans d'autres festivals et je croise des gens qui sont entre 60, 70, 80, et alors pour moi des fois c'est un peu difficile, je me sens un peu pas à ma place. Et ici on trouve des gamins jusqu'à les grands-parents, et c'est vraiment formidable, et ça fait 13 ans maintenant ce festival existe, et je pense ça fait aussi oui, un impact culturel. Une éducation, ça réveille plein de choses, parce que ça touche aussi à plein de pays, et aussi en France, il y a différents coins musicaux. Il y a plein de gens qui viennent de Lyon, d'autres viennent de Marseille, et d'autres, et beaucoup de musiciens qui sont ici sur place, qui se produisent aussi. Voilà, j'aimerais bien tu peux dire ça que tu veux sur le 13e festival, parce que la programmation, moi, cette fois-ci, j'ai pas eu assez de temps de...
Mais c'est sûr que là, moi, je prends la parole après avoir écouté attentivement Raphaël Imbert, puis Franck-Éric Rétière, avec beaucoup de choses vraiment passionnantes de fond qui sont dites par l'un et l'autre. Du exercice délicat de poursuivre après tout ce qui a été dit intelligemment et avec beaucoup de fond sur la place, en l'occurrence d'une musique, mais elle n'est pas isolée, c'est pas un feu d'artifice qui se regarde le nombril, ça s'inscrit dans un contexte, ça s'inscrit dans une histoire, ça s'inscrit en lien avec beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, et en direction d'un public qui est ce public. Voilà, on va peut-être partir de là. Le public au départ, c'est monsieur, madame, tout le monde, à qui on dit ben voilà, vous vivez dans le Grand Briançonnais. Vous êtes là à l'année, et c'est pour vous qu'on va faire un festival au cœur des montagnes, au cœur de l'hiver, hors vacances scolaires. Et là, c'est dès le départ, en faisant ça, on fait un pari fou. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, normalement, qu'on devrait faire. On devrait dire, on va faire ça entre le 15 juillet et le 15 août. Et puis, quand il fera très chaud, et que tout le monde sera en vacances, donc il y aura plein de touristes, on va remplir les salles. Voilà. Normalement, ça devrait être comme ça. Sauf que là, dès le départ, il y a une affirmation de dire, mais dans cet endroit effectivement très beau, avec une nature extraordinaire, pour le moment privilégiée, espérons que ça dure, même si pour le moment ça n'en prend pas trop le chemin, mais en face de cet environnement-là qui suscite beaucoup de choix de vie, on pourrait en reparler, de gens qui disent on veut vivre ici, c'est pas partout qu'on a ce rassemblement de gens qui disent on veut vivre là. Bref, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, en direction de ce public au départ, qu'est né le festival, effectivement, il y a 13 ans. Donc, Paris, complètement fou à la base, et puis qui fonctionne, parce que ça fait 13 ans. Il s'est assis petit à petit, il s'est installé, il a conquis, il a rencontré, on va pas parler de conquête, mais de rencontre plutôt, le public qui maintenant l'attend assez impatiemment, parce qu'il y a le côté fête du temps court. Et tout en parlant, je me dis que dans tout ce qui a été dit, il y a un mot qui est souvent, qui était là, c'est la question du mélange. Je voudrais pas perdre cette notion-là. Elle a été évoquée par Raphaël, puis par Franck-Éric. Cette question du mélange.
Oh,
pour illustrer cette question du mélange et du partenariat, du coup, je pense à ce que fait le théâtre du Briançonnais, le TDB, qui s'inscrit sur une saison. Voilà, on démarre en septembre, on arrête en mai-juin, et on va fidéliser des gens à des rencontres qui vont s'étaler sur l'année. Et puis, là où il y a partenariat, là où il y a mélange, c'est que nous, festival, par définition, on est un temps beaucoup plus court. Mais ça ne s'oppose pas, ça se conjugue. On est en train de faire en sorte que ça vive ensemble, sans tirer chacun dans son coin. C'est complètement illusoire de s'enfermer dans ses murs et de ne pas rencontrer l'autre. On le fait déjà donc à notre échelle, en tant que acteur culturel, en tant que professionnel de la culture et de la chose du spectacle vivant plus particulièrement. Alors tout ça, ça m'amène voilà à cette histoire de rencontre, de mélange. On mélange beaucoup de choses. Si je parle programmation, on est complètement dans du mélange. Qu'y a-t-il de commun entre Electric Mamba, Electric Vokuhila qu'on verra à Névache par exemple, et bah, par exemple oui, et Raphaël Imbert qui va faire la création de Si proche d'oraison. Bah, a priori, il y a le jazz, mais c'est tellement vaste ce mot-là que chacun peut y trouver vraiment quelque chose qui va lui parler. Alors c'est un programme, il y a 60 concerts dans 35 lieux, environ 150 artistes invités, et c'est pas une affaire de spécialistes. J'ai beaucoup aimé dans la prise de parole de Franck Eric la notion de donner la parole à des experts, ce qui serait trop souvent le cas. On devrait écouter beaucoup d'autres que le soi-disant expert à qui on tend le micro parce qu'il serait censé en savoir plus sur peut-être son domaine, très bien effectivement, mais sur la vision générale du monde. Moi je vois pas pourquoi les artistes auraient une vision comme ça, ou les, enfin, il y a toujours ces histoires d'experts. C'est vrai que ça finit par être, il y a une espèce d'usurpation de l'expertise. On pourrait donner la parole à beaucoup d'autres personnes, c'est ça que je veux dire. Du coup, ce festival n'est pas un festival d'experts. Il s'agit pas, on parlait d'élitisme. Et juste pour préciser la parole de Jean Villard, il disait pas élitiste pour tous, mais élitaire pour tous, justement. Dans le sens où il voulait ouvrir en disant tirons vers le haut. En fait, c'est ça. Élitaire, c'est tirons vers le haut, donnons de l'intelligence. Et n'ayons pas peur de ça. Donnons de l'intelligence, de l'envie, des références. Et il faut tendre vers le haut. Évidemment, on va pas se contenter du minimum. C'est marrant parce que dans ce pays très fortement ancré sur le sport, où la notion d'effort, elle est présente, je dirais, au quotidien ici. On est dans un environnement où beaucoup de gens s'engagent physiquement dans de l'effort. Il suffit d'essayer d'aller suivre des gens qui font du skating, par exemple. C'est un truc de dingue. Ils sont tous plus, c'est des avions à réaction, hein. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Mais il y a les grimpeurs, il y a les rameurs, il y a les cyclistes, il y a les parapentistes, il y a les skieurs. Enfin, bref, c'est quand même dans tout ce territoire des gens qui sont vraiment prêts à faire des vrais efforts. Donc, la notion d'effort physique, elle est acquise ici. On se pose pas la question, on se dit pas faire un effort, c'est réservé à une élite sportivement. On se dit pas ça, mais faire un effort, on va dire intellectuel, mais j'aime pas trop le mot parce que est-ce que c'est intellectuel d'écouter de la musique? Je crois pas. C'est peut-être faire l'effort d'accepter, on va dire la sensation, l'écoute. C'est pas intellectuel. Se poser, se mettre assis, écouter des belles notes, c'est pas intellectuel. C'est ressentir. C'est très important. C'est extrêmement important. On ressent.
Et on partage.
Et on partage parce que on est assis les uns à côté des autres. On devient public. prend la programmation du festival, oui, Raphaël Imbert, avec les Victoires de la musique, a une notoriété. Oui, Anne Passeo, grande batteuse de jazz, a une notoriété. Il y a quelques noms, ce qu'on appelle des têtes d'affiche. Bon,
mais elle a fait ses premiers pas ici, Anne Passeo, oui. Ici, et voilà, elle n'était pas encore si connue, hein, avec Raphaël Imbert, qui l'a invité souvent, Anne Passeo, de l'accompagner, et petit à petit, voilà. Elle s'est fait connaître. Ça fait pas si longtemps qu'elle est connue. Ça fait peu de temps qu'elle a percé, là.
Mais c'est vrai que c'est notre travail d'accompagner des gens de qualité vers la rencontre la plus grande possible avec le public. Et ça nous amène à demander ou à acquérir, je sais pas comment on s'y prend, mais la confiance. Parce que si on connaît pas, alors qu'on nous rabat les oreilles avec le vu à la télé, entre guillemets, faut qu'on trouve autre chose pour créer cette confiance-là. Voilà. Alors la confiance, moi je me dis effectivement au bout de 13 ans, elle est palpable. On n'est plus dans l'essai, on est dans quelque chose qui est affirmé. Il n'empêche que ça reste très fragile parce que les mastodontes dont je parlais, ils sont quand même surpuissants par rapport à un petit théâtre du Briançonnais, à un microscopique Altitude Jazz Festival. Donc il faut qu'on continue. Et effectivement, j'écoutais avec attention ce que disait Franck Eric dans le rapport évidemment aux politiques. Il faut que les uns les autres s'emparent de tout ça, continuent, ils le font déjà, mais ils peuvent projeter le fait que il y a un besoin sociétal vraiment de travailler cette oreille ouverte vers de l'inconnu, mais dans tous les sens du terme, pour une évolution de société. Sinon, on va reproduire des choses très repérées, reconnues, mais qu'on n'invente plus. Et si on n'invente plus, le monde, il s'effondre. Alors,
il n'y a plus d'aventure.
Il n'y a plus d'aventure. Alors, on le sait ici fortement, la notion d'aventure avec la montagne. Et malheureusement, on ne fait pas exactement toujours le parallèle avec la notion culturelle. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin. Je dis pas que rien n'est fait, évidemment, on existe et tant mieux, et voilà. Mais s'emparer de la question de l'avenir, à mon avis, ça ne peut passer que par un regard sur la projection de la culture pour le développement d'un endroit. Et encore une fois, quand on fait un festival au cœur des montagnes, au cœur de l'hiver, hors vacances scolaires, c'est le pari économique a priori insensé, et pourtant il répond à quelque chose. Et encore une fois, il faut pas se laisser enfermer dans je ne connais pas, c'est juste pour une élite, je sais pas laquelle, moi, parce que je ne vois pas où est l'élite ici, sur ce territoire. Choix de vie, oui, ça vraiment, je l'entends beaucoup, 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 et beaucoup plus qu'ailleurs, et tant mieux, ce territoire attire pour des tas de raisons, et amène j'ai encore rencontré hier quelqu'un qui me disait que une infirmière disait que c'est son mari qui a fait HEC, donc à Paris, au moment où ils se sont rencontrés, ils ont décidé de vivre pour des raisons de choix de vie ici, dans le Briançonnais. Dame, donc, est devenue infirmière ici, et le mari, qui a plein de collègues qui sont dirigeants de grosses entreprises, il ne peut pas diriger une entreprise de ce type-là dans le Briançonnais. Et donc, il fait complètement autre chose par choix de vie. C'est juste une illustration de quelque chose qu'on trouve fortement ici. Alors, je veux revenir à la notion du festival qui est ouvert absolument à tous. Et notre travail d'accompagner les spectateurs, c'est pas de recueillir l'avis et l'intérêt de ceux qui le fréquentent déjà. Bien sûr, ceux qui le fréquentent déjà, et bien, continuez à venir, bienvenue, continuez à remplir les salles comme vous le faites, mais on ne se cloisonne pas. On n'a pas envie d'être un microcosme de quelques spectateurs. Mais c'est ce que fait le théâtre du Briançonnais à l'année. Ouvrons les portes le plus possible. On en a absolument besoin. Construisons comme ça. Quand on nous pose la question, mais alors qu'est-ce que tu me conseilles? Quel est le programme parmi tous ces concerts qu'il faut absolument qu'on voit? Eh ben, c'est compliqué à répondre parce que le jazz. Raphaël Imbert l'a bien dit d'ailleurs dans sa conférence sur Osons l'improvisation, c'est une question d'ouverture en fait, et c'est extrêmement important, et l'ouverture c'est on a le droit d'aller, je prends au hasard, le cabaret brunch de dimanche 20 janvier, on a le droit d'adorer Perrine Mansuy et de ne pas aimer du tout par exemple Yom Trio, c'est pas grave, on demande pas à chacun de tout aimer, on a encore une fois en revanche presque le devoir d'écouter sa sensibilité, d'aller peut-être du coup regarder dans une programmation comme ça aussi variée, qu'est-ce que parmi ces noms qui ne sont pas des têtes d'affiche, qu'est-ce qui pourrait bien me parler? Et là on commence effectivement à avoir une petite exigence, c'est dire eh ben écoutez, ça vous est ouvert, mais il faut à vous de faire un tout petit effort. Voilà, vous regardez le site internet par exemple, où vous mettez des extraits qui durent même pas 2 minutes et vous aurez tout de suite une idée de ce qui vous peut vous toucher. On fait des tarifs vraiment très préférentiels. Si je parle de Hans Passeo qui va clôturer le festival le 2 février, on peut l'avoir à 40€ minimum au Duc des Lombards à Paris. Ici, ça va être à une vingtaine d'euros. Et voilà, voilà ce qui se passe. Voilà la réalité de ce qui se passe ici, de ce qu'on fait. Donc, oui, on vous demande un petit effort d'aller vers ce qui vous connaissez peut-être pas, du nom. Ça n'a pas d'importance, prenez un tout petit peu le temps de regarder, de vous documenter, et vous verrez des tas de soirées, mais vraiment très différentes. Il y en aura bien une qui va vous donner envie d'y aller, et certainement après d'y retourner. C'est ce qui se passe déjà avec les milliers de spectateurs, c'est de l'ordre de 6000 par festival, c'est vraiment bien, on pourra en faire plus, mais il n'y a pas de cloisonnement, et c'est notre travail.
Non, en plus, musicalement, vous n'êtes pas du tout cloisonné, parce qu'il y a la musique... balcon oriental, oui. Et après il y a aussi un peu vers le rock, je pense dans la face B, les oui. groupes qui...
Oui, il y a effectivement dans tous les genres, et quand je parlais de la notion de mélange dont on parlait Raphaël et Franck-Éric, cette question de mélange, moi je la vois aussi dans les endroits de programmation. Il y a les endroits, on va dire, classiques de représentation du spectacle vivant, comme ici au Théâtre du Briançonnais, au TDB, et quand on joue sur un front de neige ou dans les bains de Monnetier, on est dans un mélange d'endroits, voilà, mélange de types de jazz, mélange aussi d'endroits. Il y a les endroits avec les représentations, ce qu'on appelle les grandes soirées, où c'est payant effectivement.
Bien mais il y en a plein qui sont pas payants. Si les gens ils veulent faire la découverte, ils peuvent aller, et puis voilà. Et après, peut-être petit à petit...
Il y a énormément de concerts dans des bars, mais aussi dans des lieux extérieurs, qu'on appelle le jazz hors-piste. Et donc, vraiment, l'accessibilité, elle est là. On ne peut absolument pas dire que ce festival est réservé à une élite financière qui aurait les moyens. C'est absolument pas le cas. En revanche, oui, ça demande un petit peu de curiosité. Ça, c'est vrai. Et je pense que ça serait très démagogue de dire l'inverse. Et moi, je veux pas être démagogue là-dessus. Oui, ça demande une envie. Donc, à nous de créer l'envie. Mais je crois qu'avec tout le travail de création d'une ambiance, de scénographie, je vois comme on a décoré le temps du festival sur la notion de 13 sauvages, parce que c'est la 13e édition, on a joué avec le mot 13 sauvages, on amène le public à découvrir un endroit habité pendant de façon éphémère là pendant 15 jours d'une manière autre. Il y a plein de ces moments là d'invention, et je salue mais vraiment, vraiment très très sincèrement tout le travail des bénévoles qui s'impliquent de manière par définition gratuite pour faire vivre aussi, pour contribuer à ce que ce moment puisse voir le jour. Et vraiment il y a une énergie partagée qui est très très forte, qui est très rare. Et là, il y a un enthousiasme ici, grâce à ce bénévolat qui est extraordinaire. Et le festival existe aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cette énergie-là. Après, comme l'a dit Franck-Éric, attention à ce que tout ne repose pas sur du bénévolat, parce que il faut tirer vers quelque chose de professionnel. Évidemment, les musiciens le sont, mais il faut une équipe professionnelle pour porter tout ça. Et ça, c'est absolument évident, ouais.
Je pense qu'on a fait les tours. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Oui, moi je veux bien rajouter quelque chose pour compléter ce qu'a dit avec beaucoup d'éloquence et de qualité Jean-Benoît Blandin. C'est-à-dire que voilà, un festival, c'est un lieu de découverte. Alors je sais pas comment il a parlé de la Bretagne, qui c'est une terre aussi qui me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi ça m'a traversé, les transmusicales de Rennes. Aujourd'hui, effectivement. Quand on va dans d'autres festivals à Rennes, on se rend compte que ça a créé un auditeur, une auditrice vraiment très différente, parce que ils ont été cultivés au transmusical, ils ont été biberonnés au transmusical. Donc effectivement, là c'est pareil pour AJF au fil des années, parce que ça prend beaucoup d'années en fait. Donc là, 13 ans AJF, le théâtre là, du Besançonnais, c'est que 8 ans, et sous la forme théâtre ça fait 20 ans. Tout ça c'est très très peu, mais au fil des années ça cultive en fait un public qui amène aussi sa différence, qui amène sa notion festive, parce que Jean-Benoît est un homme pudique, discret, mais il y a des petites pépites, il y a des petites choses qui vont se passer. C'est Jean-Benoît, alors moi je fais comme toi l'intervieweur, et il nous dit rien, il faudrait peut-être un petit peu creuser quand même, qu'il nous lâche quelques petites choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas dans le programme? Il y a des petites, dans les routes du jazz il se passe des drôles,
oui, voilà, les routes du jazz, oui, moi je voulais aussi finir peut-être un peu là-dessus.
Effectivement.
Mais il peut pas tout dire parce que c'est une surprise.
Par définition, mais c'est bien, merci. Par définition, les routes du jazz, on ne peut pas dire ce que c'est, parce que c'est ça fait partie des paris fous, voilà, où on dit à un public, à tous ceux qui veulent venir, on dit exactement rendez-vous à 16h19 le dimanche 27 janvier, voilà, le 27 janvier à 16h19, pour voir quoi? Eh ben on vous le dit pas. Voilà. Donc si vous voulez, c'est et voilà, là on va jusqu'au bout de l'inconnu. Mais venez. Alors, ça s'est passé déjà l'an passé. Ça a très, très bien marché. On a emmené des gens dans des autobus, rencontrer le free jazz, le jazz manouche. Voilà. Et les gens savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir, ni où, ni avec qui, etc. Et ça a très, très bien fonctionné. À tel point qu'il y a eu une demande de dire, allez, on refait de nous des routes du jazz. Sauf que, évidemment, on va pas refaire la même histoire que l'an passé. C'est hors de question. Parce que la redite n'est pas du tout intéressante. Donc, on redit, rendez-vous, et vous ne savez pas pour voir quoi. Simplement, soyez là à 16h19, le 27 janvier, il va se passer quelque chose. Et je ne peux vraiment pas dire ce qui va se passer, mais c'est le jeu de la surprise, de dire ben laissons-nous embarquer, en fait c'est vraiment ça va être, il y aura une notion de jazz qui sera pas loin, ça sera peut-être un petit peu autre chose, ça sera différent, on sait sûr que de toute façon ça sera pas le format classique, on sait pas avec qui, on sait, voilà, et même je vais vous dire jusqu'au bout, on a fait en sorte que l'information circule peu, même à l'intérieur de l'équipe, pour que personne ne sache exactement, sauf peut-être 2-3 personnes, le déroulé de l'ensemble. C'est un jeu, c'est un grand jeu comme ça, et faut faire des paris comme ça incroyables. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça avait rempli l'an passé, que les gens ont été mais vraiment pas déçus, qu'on est sûr que cette année ça va être encore un grand moment, voilà, un moment rare. Et encore une fois, j'ai envie de dire merci à la confiance des uns et des autres, et de s'affranchir de la peur de l'inconnu.
Oui, voilà. Et ben, pour tous les auditeurs, vous pourrez aller sur les sites, en tout cas pour le Jazz Festival et aussi pour le TDB, pour regarder la programmation, écouter les extraits. C'est très bien illustré. visuellement, on peut voir des vidéos, des sons, et voilà. Et bien, après, vous faites votre choix. Moi, j'en ai fait des choix, mais peut-être je peux pas venir. Je regrette beaucoup. Alors, venez-vous à la place. Merci beaucoup. Venez nombreux, et puis faites cette découverte, même si vous êtes pas ici dans le coin. Venez, prenez un jour de vacances. Un week-end, parce que souvent les gens travaillent et faites là.
Il fait beau, il fait chaud, dans le Briançonnais, il fait beau, il fait chaud, on y mange bien, on s'amuse bien, on peut aller au bain de Monnetier. C'est vraiment un lieu magnifique. Et juste pour conclure, moi je me disais, il y a deux choses comme ça qui me traversent l'esprit. C'est, pour moi, cette édition, elle est into the wild. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'esprit de taureau aussi, sans faire pontifier en Walden ou la vie dans les bois. C'est-à-dire que là, il y a des choses comme ça, là on va être dans les bois, on est dans l'aventure, et il y a des choses qui vont se passer, et je pense qu'il faut y être, parce qu'on s'en souviendra tous, mais on sait pas tout ce qui va arriver.
Eh ben voilà, le mot de la fin, merci beaucoup. Fortement enfin Eric Rétenier du TDB, Théâtre de Briançonnais, Raphaël Imbert et aussi Jean-Bernard Blandine de l'association des décablés de Altitude Jazz Festival. On a écouté des extraits de Raphaël Imbert, Nine Spirit Résidence des Créations, si proche d'Horizon. Des extraits de groupe Passport Quartet, Fanny in Deep Freeze. Également, on a écouté des extraits du CD de Raphaël Imbert, Music is my hope, qui était Victoire de la musique 2018. On a écouté la chanson Has the Song de Marion Rampal. Également des extraits de Electric Mamba, Get the Nougou Life. Des extraits des groupes Alison Terra, Castle Burning. On a écouté des extraits du nouveau disque de Laurent Coulandré, Gravité Zéro, et du nouveau disque qui vient tout juste de sortir de Anne Passeo, Bright Shadows. Voilà, et là, on vient d'écouter un morceau tiré du disque de Raphaël Imbert, Project Heaven, Amadeus is a Duke. Avec, on a écouté Thomas Weitrich à la guitare, Simon Siga, trombone, des fois piano, oui. Pierre Fé-Michel à la contrebasse et Jean-Luc Defrayer à la batterie. On continue avec un morceau du nouveau CD de Anne Passeo, Bright Shadows. On va écouter le morceau qui s'appelle Tomorrow.
How would it go in the old days?
soir. Merci pour l'écoute et à la prochaine Pulse Jazz. Restez sur l'écoute de Radio Sansine.